Moi, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14, bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1.
Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis. Alors c'est l'automne, mais nous sommes là pour vous réchauffer avec une belle tablée, hein, comme tous les samedis. On va boire la tasse de café aujourd'hui. C'est quoi, tiens, au juste, un bon café? Eh bien, des origines à l'extraction, on va tout savoir. En attendant, voici ma bande de bons vivants. Curieuse, observatrice et gourmande, elle tourne sa fourchette cette fois dans sa bouche avant d'écrire. C'est Charlotte Langrand du Journal du Dimanche.
Bonjour, c'est tout moi.
Bonjour Charlotte, mais bien sûr que c'est vous.
Bonjour Charlotte.
Amoureux du mortier, il va nous mettre au rythme du pilon ce samedi et pas de poulet. C'est Yves Candebord qui est avec nous.
Et puis je vais pas vous mettre au pilon surtout. Hein.
Non, surtout pas. Une
bonjour
belle
Charlotte,
recette au mortier.
Bonjour Laurent.
Bonjour Yves Candebord. Marion Sauveur nous rejoint dans un instant avec vos questions et puis son journal de la cuisine. Et Jean-Luc Petit-Renaud va rendre un bel hommage à Pierre Troisgros, un monument de la gastronomie qui nous a quittés cette semaine. Voilà. Et puis, notre invité, un baroudeur, les amis, Antoine de Maximy, va se mettre à table avec nous un peu avant midi. Et ben voilà, vous savez tout. Alors, c'est l'automne, hein, mais l'été est toujours là, dans nos assiettes. Il fait un petit peu pas terrible, hein, sur toute la France, on va dire, pour pas dire autre chose, ce week-end. On va mettre du soleil dans nos assiettes avec un marché sur la Côte d'Azur dans un instant. En attendant, quel est votre goût de la semaine? Tiens, Charlotte.
Alors, moi, je suis allée chez Mama Nissa, un petit restaurant de cuisine algérienne qui vient juste d'ouvrir, qui fait self le midi et service à l'assiette le soir. Et on y découvre que cette cuisine, c'est ni celle du Maroc, ni celle de la Tunisie. Il y a évidemment des couscous ou des tchatchoukas, mais il y a surtout des spécialités propres à l'Algérie.
C'est où?
Alors, c'est rue Mandar à Paris, dans le 2e arrondissement. Et vous avez des différences entre les régions Est, Ouest, Kabylie. Et puis, par exemple, vous pouvez déguster quelque chose que je ne connaissais pas, qui s'appelle la rechta, des pâtes fraîches typiques, cuites à la vapeur, avec du poulet fermier, de la cannelle, des petits navets, des carottes, des pois chiches. Et en plus, c'est maman en cuisine qui est là, qui fait ses recettes à sa façon. Donc, allez faire un tour, franchement.
Mama Nissa. Votre goût de la semaine, Yves?
Mais moi, je suis allé me balader un peu dans le Puy-de-Dôme, à Cussac. Et j'ai ramené des pois blonds de la Planèse. Alors, les pois blonds de la Planèse, ça ressemble aux pois chiches. Là, c'est une des productions locales, comme la fameuse lentille de Saint-Flour. On peut les travailler de façon différente, on peut les travailler en risotto. Moi, je me suis amusé à les travailler dans un jus de betterave. J'ai fait un jus de betterave, je les ai cuites dedans. Et alors, c'est très intéressant parce que ça a une texture de croquant quand c'est cuit, ça a une belle tenue. Et ça nous permet de l'agrémenter aussi sur une petite salade très simple avec un trait d'huile d'olive, du basilic, un peu de fleur de sel pour se rappeler un peu l'été. Ou en accompagnement sur nos fameux produits de chasse de cet hiver.
Et ça fait partie des fameuses légumineuses qu'on aime tant, hein, des protéines végétales.
On dépasse les 27% de protéines.
Alors, mon goût de la semaine, moi, il était dans le nord Pas-de-Calais. Je suis allé manger dans une taverne qui s'appelle le Froggies, qui appartient à Alexandre Gauthier, vous savez, ce génie, ce magicien
chanceux
de la cuisine. Le Froggies, c'est une taverne très accessible, hein. On mange pour une vingtaine d'euros. Et les travers de porc au Froggies, eh bien, ils sont à tomber parce qu'ils sont très maigres, très croustillant, pas beaucoup de gras. Je sais que certaines personnes ont du mal avec les travers parfois à cause de ça. Ils sont cuits à la perfection, croustillants, bien marinés, avec des petites pommes de terre grenaille. Je peux vous assurer que là, avec le temps qu'il fait, ça vous réconforte et ça réchauffe. C'est le Froggies à Montreuil-sur-Mer. Oui, j'ai pas dit où c'était. C'est Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Alors maintenant, on va dans le sud, tiens. Direction la Côte d'Azur pour aller au marché. Frédéric Michel, qui est notre correspondant dans la région, nous attend avec son cabas sur le marché de Fortville, à Cannes. Les habitués connaissent bien. Hein. Quelles sont vos recettes pour prolonger le goût de l'été? Vos réponses au micro de Frédéric Michel.
Je viens d'acheter une bonite. C'est une sorte de petit thon. Je vais l'émincer et je vais me faire un ceviche avec du citron vert, des herbes.
Aujourd'hui, je vais faire de la purée de carottes, pommes de terre avec des blancs de poulet en émincé.
Et en dessert, des oranges et pamplemousse. Parce qu'on vient d'un mariage, alors il faut un peu se mettre à la diète.
J'ai des tomates, j'ai acheté de la viande au Sobuco, ça fait un petit peu de soleil dans les plats.
Voilà, vous avez du raisin, vous avez des figues, la pastèque, c'est l'été.
Là, j'ai salade, poivron, je vais acheter des carottes,
des framboises, des melons. Moi, je viens deux fois par semaine ici. Ça permet de faire toute la semaine avec des produits qui sont vraiment frais. De ne pas stocker trop de choses en même temps, de tout acheter en même temps.
Dans cette allée, on a des petits producteurs où c'est leur production, c'est de la production locale. Et ça prolonge les vacances.
Eh bien voilà, continuons à aller sur les marchés en respectant les gestes barrières, bien entendu, le port du masque, les distances de sécurité, le gel hydroalcoolique et on fait ses courses. Voilà, ça fait du bien d'entendre cette belle ambiance. C'est vrai, Yves, que les fruits et légumes d'été n'écoutent pas le calendrier. Ils sont encore là quelques semaines avec nous.
Oui, hein. Oui, parce qu'on a quand même eu la chance d'avoir un été assez exceptionnel. Et on a encore la chance de retrouver encore, bien sûr, les tomates, de retrouver la framboise, de retrouver la fraise qui sont en train de traîner tout doucement. Et je dois avouer qu'avec le temps qu'on a, je suis bien content de les avoir.
Parce bien sûr.
Ça nous amène un peu de soleil encore dans nos assiettes et c'est très agréable.
Mais c'est une des saisons préférées des chefs, effectivement, ce croisement entre la
c'est
fin de l'été et l'automne.
Ce qui est sympa, c'est vraiment c'est quand ces micro-saisons se croisent. En printemps, parfois, vous avez les dernières asperges qui croisent les premières morilles. Là, vous avez les premières poires qui s'acoquinent encore un peu avec les dernières tomates. C'est quand même ça qui est...
Des chassés croisés voilà, de fruits et légumes.
C'est ça qui est plaisant.
Ne bougez pas, on vous emmène dans un instant à la bergerie nationale de Rambouillet pour découvrir le mouton Mérinos. Il ne sert pas qu'à faire des pulls, vous entendrez. Allez, à tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Avant de répondre à vos questions, on s'intéresse ce matin au mouton Mérinos. On connaît le Mérinos pour sa laine avec ses jolis pulls. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le Mérinos est aussi élevé pour sa viande. On utilise tout depuis toujours dans nos campagnes, dans le mouton, Yves.
Oui, c'est toujours le bon sens paysan. Voilà, c'est des bêtes qui sont, excusez-moi, travaillées au départ que pour leur laine. Mais c'est vrai qu'on arrive à faire des choses très intéressantes. J'ai envie de dire, on fait de la charcuterie de mouton.
C'est vrai,
voilà,
c'est ça.
On fait de très intéressantes terrines, on arrive à faire des jolis compotés. Avec le gigot, le fameux gigot de 8 heures qui est aussi très intéressant parce que la chair est tendre et savoureuse. C'est une viande voilà, qu'on connaît peu, qu'on utilise peu, mais qui est intéressante.
On va goûter une terrine dans un instant. Mais juste avant de partir à la bergerie nationale de Rambouillet, retrouver un éleveur, un petit mot sur ses origines, Charlotte Langrand, parce que le Mérinos, il est à Rambouillet aujourd'hui, mais ça fait un petit moment qu'on le trouve sur notre sol en France.
Oui, c'est un petit moment, effectivement. La bergerie nationale de Rambouillet, elle a été créée par Louis XVI, donc ça date. Mais il l'a faite pour être une ferme modèle avec une renommée internationale, parce qu'elle a vraiment un troupeau exceptionnel. Il y a quand même 366 moutons Mérinos. C'est devenu un troupeau national à la Révolution. Et aujourd'hui, c'est vraiment un berceau de reproducteurs exceptionnels qui sont recherchés par les pays ovins des cinq continents. Et le troupeau, aujourd'hui, est plus qu'une référence. C'est vraiment le conservatoire génétique du Mérinos.
On préserve et on sauvegarde les races anciennes de moutons. Alors, direction la bergerie nationale de Rambouillet dans les Yvelines. Marion Sauveur a tendu le micro à Gérald de Roseau, responsable de la bergerie, il n'y a pas de mais, pour faire connaissance avec la nouvelle portée d'agneaux.
Donc ici, on est dans une de nos bergeries, avec un lot d'agneaux qui sont nés au printemps, cette année. Donc là, on a plusieurs races. Le Mérinos de Rambouillet, qui lui est une race très francilienne, puisqu'elle n'existe qu'à la bergerie nationale de Rambouillet. On a aussi des animaux de race Île-de-France, et on a quelques autres races qui viennent d'un petit peu plus loin, mais qui sont bien adaptés au territoire d'Île-de-France. L'objectif de l'agroécologie, ça va être de produire, d'avoir des élevages, de nourrir des animaux, sans détériorer l'environnement. Nous avons adapté la taille du troupeau aux prairies et aux ressources que nous avons, donc on est en mesure de leur apporter une alimentation correcte, riche. Dans le râtelier qui est juste devant nous, on a du foin qui a été récolté au mois de mai cette année, qui vient des prairies, c'est-à-dire qu'au printemps, on laisse les animaux pâturer une partie de la surface et l'autre partie, on récolte l'herbe, on la stocke pour pouvoir passer l'hiver suivant.
Et elle se régale visiblement.
Ensuite, nous produisons de la viande d'agneau sous forme de colis ou sous forme de viande au détail. Voilà, de la fourche à la fourchette pour reprendre la formule.
De la fourche à la fourchette. Et bien, on est en plein dedans, effectivement, avec une très belle exploitation. Bonjour Marion Sauveur.
Bonjour à tous.
Vous
bonjour
rentrez Marion. De Rambouillet. Voilà,
mais
c'est,
oui.
C'est un beau conservatoire, comme le disait
c'est
Charlotte.
C'est un beau conservatoire et surtout, on voit toute l'expérimentation. En fait, c'est vraiment l'agroécologie de la fourche à la fourchette, effectivement. Et on voit ces cultures, ces prairies, toutes ces brebis. On peut aller se balader et aller à la boutique découvrir ces terrines, justement.
Élevage à taille humaine. Alors, on va la découvrir, cette terrine. Justement, je trouve ça intéressant, Yves Candebord. Parce qu'on peut trouver qu'il y a de l'élevage intensif aussi sur l'agneau en France. Là, on est dans un modèle qui est préservé, à taille humaine, effectivement, et on ne jette rien, on va travailler l'animal pour pouvoir en faire des terrines, des conserves. Alors, on a une terrine de Mérinos au romarin.
Voilà. Oui, c'est assez étonnant parce qu'on sait que le mouton, c'est quand même une viande qui est puissante. Mm-hmm. Et là, on a deux saveurs entre le romarin en conserve aussi qui dégage beaucoup de puissance. Donc, il y a, je dirais, un petit combat dans l'Aveyrine oui. qui est surprenant.
Alors, vous le savez, chaque samedi, on répond à vos questions, amis auditeurs. Et c'est vous, Marion Sauveur, qui récoltez les belles questions de nos amis sur le 39-21 et puis sur la page Facebook du groupe Les Bons Vivants. Eh bien, on vous écoute, tiens.
Alors, avec l'arrivée de l'automne, ben, les auditeurs se demandent s'il y a une saison pour les salades vertes. Brigitte, Jocelyne et Yves voudraient savoir quelles sont les salades qu'on peut acheter en ce moment.
Ah ben, il y en a plein, des salades, les laitues encore, on est dans les laitues là, Yves.
Oui, on est complètement dans les laitues, parce que pratiquement jusqu'au début du mois de novembre,
la Batavia,
voilà, on a les sucrines vertes et rouges aussi qui sont là, c'est encore une saison très agréable pour tout ce qui est salade. C'est à partir du mois de novembre que ça se dégrade un peu.
Il y a l'arrivée du cresson en ce moment aussi.
Oui, alors. Le cresson, voilà.
Et d'ailleurs, j'en ai mangé hier.
Poivré.
Alors, chez Thomas Brachet aux Arlots, à Paris. Et lui, il met un trait de vinaigre Laguinelle, cette vinaigrerie artisanale près de Banyuls. C'est franchement, essayez, c'est assez élégant, assez puissant aromatiquement, mais très élégant, très fruité, presque avec des fruits secs ou du miel, vraiment, allez-y. Quoi.
Et on peut le cuire aussi, le cresson, comme des épinards. Hein.
C'est super intéressant en cuisson et c'est aussi très très bon en potage avec juste pommes de terre, des pommes de terre coupées en morceaux, un peu de poireau, vous faites cuire, juste mouillé avec de l'eau, vous faites cuire pendant 10-15 minutes, vous mixez l'ensemble et une fois que c'est mixé, vous prenez votre cresson qui a été rincé, vous le mettez dedans, vous faites infuser 5-6 minutes, vous remixez et vous avez une petite crème de cresson toute simple. Mais qu'est-ce que c'est bon.
Et la laitue iceberg, alors il y a Maggie qui se pose des questions, elle se demande si vous avez des petites idées de recettes, écoutez.
Je suis très tentée par la laitue iceberg que j'ai eu l'occasion de goûter une fois. C'est croquant, j'ai trouvé que c'était délicieux. C'est très dense et je ne sais pas comment l'arranger, je ne sais pas comment la préparer. Je vous remercie.
Alors, c'est vrai que je l'aime bien, cette laitue, elle est ferme et elle est croquante. On peut l'utiliser dans une césar salade, par exemple, Yves.
Oui, complètement, on peut l'utiliser vraiment, j'ai envie de vous dire, avec toutes les recettes de salade. Mais on est en pleine saison de la figue. Voilà, on est à la fin aussi de la tomate, une salade figue-tomate, bien mélangée, bien assaisonnée. Et moi, j'ai une petite astuce de présentation. Vous prenez les premières feuilles de l'iceberg, là, les plus grosses, vous les décollez délicatement, vous la gardez entière. Vous faites dans votre saladier votre mélange de salade, donc la figue, la tomate, la salade, un assaisonnement avec une pointe de vinaigre, de cidre, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive. Et tout ça, vous le remettez carrément dans le côté concave de votre feuille que vous avez gardée. Et cette feuille, vous la retournez hop, dans l'assiette. Vous allez servir voilà, comme si vous aviez un petit dôme devant vous et vous avez la salade à l'intérieur. C'est tout mignon, c'est tout simple, mais c'est une jolie présentation.
C'est magnifique, oui, on ne vous raconte pas de salade, on vous donne des recettes de salade, donc faites-les, amis auditeurs, et puis amusez-vous aussi avec les vinaigrettes, customisez-les, un jus de poulet, un petit peu d'agrumes si vous voulez, faites-vous plaisir. On continue
et
à poser
les
questions.
Vous posez vos questions au 39-21, 50 centimes par minute et sur la page Facebook de l'émission.
Et puis n'oubliez pas notre newsletter Cuisine Europe 1, hein, vous la trouverez sur notre site europe1.fr avec les recettes de la table des bons vivants et plein de conseils. Allez, ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec le journal de la cuisine et le bel hommage de Jean-Luc Petit Renault à Pierre Troisgros. A tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Ma mère mettait toujours des cornichons dans la blanquette, chose qui choquait les mots. Toujours une recherche du point d'acidité pour relancer le goût et éveiller l'esprit au plat qu'on mange. Mais l'acidité, c'est le fort de la famille.
Ah, la belle voix chaleureuse et malicieuse de Pierre Troisgros qui nous a quittés cette semaine, mercredi, à l'âge de 92 ans. Le bel héritage de l'acidité, toujours vivant dans la maison Troisgros, Yves. Hein.
Oui, et puis j'ai envie de dire toujours vivant dans la gastronomie mondiale et française à la base. Il a transmis ça et c'est vrai que bon nombre de jeunes cuisiniers, dont je fais partie, on a fait notre métier grâce à des messieurs comme lui. On les a écoutés. Écoutez les gens, n'oubliez pas qu'il faut écouter nos anciens parce qu'ils nous transmettent des messages qui sont tellement, tellement vrais. Mmh. Et surtout, c'est des messages de vie parce qu'on continue à les employer aujourd'hui. Et l'hommage qui va lui être rendu, je pense qu'il sera à l'image de ce grand monsieur.
Oui, et puis c'est vrai qu'il a fait rayonner la cuisine française dans le monde entier comme Paul Bocuse. Il a voyagé dans le monde entier,
évidemment,
Pierre Troisgros.
La gastronomie française lui doit énormément. On parle toujours du saumon à l'oseille, mais moi j'aime bien aussi insister sur Michel, César et Léo qui ont pris la succession brillamment et c'était pas facile non plus d'assumer une telle aura gastronomique et d'en faire aussi quelque chose, d'évoluer et de s'inscrire dans son temps. Donc,
et Jean-Luc Petit Renault, qui sera avec nous dans un instant, va rendre un bel hommage aussi à Pierre Troisgros. Alors, que s'est-il passé cette semaine au rayon actualité de notre alimentation? C'est l'heure de votre journal, cher Marion Sauveur. Des restaurants contraints de fermer, Grand boom des menus végétariens dans les cantines. Et Glenn Viel, chef de l'année, voici le menu de votre journal. Alors, on le sait, hein, malheureusement, les bars et les restaurants de la métropole Aix-Marseille et de Guadeloupe vont fermer leurs portes, Marion.
Oui, ce samedi, décision du gouvernement face à la résurgence de l'épidémie. Ces deux zones sont placées en alerte maximale. Les bars des villes placées en zone d'alerte renforcée comme Lyon, Bordeaux, Lille, Montpellier ou Paris vont devoir fermer à 22h à partir de lundi. Les professionnels du secteur se sont insurgés contre ces décisions. L'État a promis des mesures de soutien supplémentaires pour les commerces impactés.
De plus en plus de menus végétariens dans les cantines.
Selon Greenpeace, aujourd'hui, 71% des écoliers bénéficient d'un menu hebdomadaire sans viande ou poisson. Il y a deux ans, ils étaient seulement 10%. Une progression rapide due à la loi Agriculture et Alimentation de novembre dernier. Elle rend obligatoire un menu végétarien au moins une fois par semaine pour les cantines scolaires. Et c'est une bonne chose, hein, si l'on en croit à l'étude. Avec un menu végétarien servi une fois par semaine à tous les élèves, les émissions de gaz à effet de serre dans les cantines baisseraient de 17% en moyenne.
Glenn Viel, élu chef de l'année par ses pairs.
2020 restera dans les annales, hein, pour le chef du restaurant Lousteau de Beaumanière en Provence, lui qui s'inspire de son potager pour signer une cuisine moderne, gourmande. Et il avait déjà décroché sa 3e étoile en janvier. Son pâtissier Brandon Dehan obtient le titre de pâtissier de l'année. C'est le plus jeune chef pâtissier à recevoir une telle distinction.
Eh bien, bravo messieurs et merci Marion et à tout à l'heure. Alors, on parlait de Pierre Troisgros il y a quelques secondes. Pierre Troisgros, grand ami de Paul Bocuse, c'était un autre seigneur de la cuisine française. Eh bien, Jean-Luc Petit-Renaud se souvient de ses moments privilégiés avec Pierre Troisgros. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bonjour les jolis camarades de la fourchette. Alors, en ce samedi, on va rendre un bel hommage à celui qui appartenait à la papauté des princes cuisiniers, Pierre Troisgros. C'est toute une page de l'histoire de la cuisine qui se tourne, finalement. Dieu sait que Paul Bocuse et Pierre Troisgros étaient pratiquement inséparables. Et quand ils partaient en goguette après la chasse, croyez-moi que ça rigolait au tablé qu'ils rencontraient. Moi, j'ai aussi un joli souvenir de Pierre, parce que Pierre, bien sûr, avait toujours cet œil charmant avec les demoiselles qui arrivaient à Rouen et qui faisait les banquets de filles sans mari, et qui s'installaient comme ça en fin d'année, et qui disaient « Sans limite de prix, monsieur Pierre !» Et elle voulait toujours aussi qu'il chante sa fameuse chanson des boulistes rouennais. « C'est nous les boulistes rouennais !» avec sa voix éraillée. « C'est nous les boulistes rouennais, on a deux boules !» Et vous voyez la suite de l'histoire. Le jour où j'ai cassé la croûte avec lui, on était en cuisine, et il m'avait fait un plat tout simple. Et il disait « Ça, c'est le plus beau plat du monde !» Et c'était tout simplement un joli filet de merlan. Mais un merlan nourri au beurre, hein. Il était très joli, très doré, avec une belle écrasée de pommes de terre juste à côté. Et il avait dit « Tu vois, ça mérite 3 étoiles au guide Michelin. » De toute façon, la légende perdure avec Michel, son fils, qui a repris cette maison, qu'il a déplacée un petit peu, comme on déplace les ruches. Et puis aussi, derrière, il y a le petit César, que j'ai toujours appelé, bien sûr, le petit César, parce que je l'ai connu, il ne savait pas faire du tricycle. Alors donc, vous voyez qu'on l'a connu petit.
Ah, bel hommage, merci camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Et puis Léo aussi, le frère de César, qui est en cuisine à Ouche, hein, puisque la maison Troisgros a déménagé, n'est plus à Rouen.
Et le petit César, comme il dit, qui ne manque pas d'humour, parce que quand il sert le saumon à l'oseille, parfois encore de son grand-père, il dit « Je vous sers un petit plat nouveau, j'ai fait un petit essai. »
La nouvelle cuisine, voilà. C'est joli. Vous êtes peut-être en train de boire un café en nous écoutant. Alors au fait, c'est quoi un bon café? On y répond juste après ça.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
De lundi à samedi prochain, les torréfacteurs ouvrent leurs portes pour les journées mondiales du café. Le café est la deuxième boisson la plus bue en France après l'eau. Alors si on en profitait pour boire la tasse avec un connaisseur, Christophe Servelle, le fondateur de Terre de Café. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et
bonjour.
Meilleur torréfacteur de France, s'il vous plaît, Christophe Servelle.
Oui, merci. Et
vous êtes vice-président aussi du comité français du café.
Oui.
Combien de tasses depuis ce matin?
Pas un peu plus que d'habitude, parce qu'on va faire une petite dégustation tout à l'heure. Et donc j'ai goûté ce qu'on allait boire chez moi. Donc j'en ai bu 3 tasses.
3 tasses. Ouais. Chaque Français boit environ 800 cafés chaque année. Alors il y a le café filtre, il y a les dosettes, les robots broyeurs, les cafés d'origine, les cafés de spécialité. Il faut être connaisseur maintenant pour se boire un bon café. C'est quoi un bon café, Christophe Servelle?
En fait, il y a 2 grandes sortes de cafés. Si on veut simplifier, vous avez d'un côté les cafés industriels, avec des marques que tout le monde connaît, et puis les cafés de spécialité, qui sont faits totalement différemment à l'origine, à la torréfaction. Ce sont des cafés en général de pure origine, où tout le soin est apporté à la production au pays d'origine, à la torréfaction et à la tasse aussi. Donc il y a des méthodes pour bien faire son café. C'est simple, il faut les connaître.
Quels sont les grands pays d'origine du café alors ?
Alors les grands pays d'origine, le pays d'origine de l'Arabica, c'est l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, le plus grand pays producteur d'Arabica, c'est le Brésil. Voilà, qui n'est pas un pays d'origine. À l'origine, il y avait du café d'Arabica qu'en Éthiopie. Tous les cafés qu'on trouve maintenant autour du monde sont originaires d'Éthiopie. Ont une racine, une ADN de plantes caféiers éthiopiens.
L'Arabica, on va dire qu'il est plus complexe, il a une plus belle palette aromatique que le Robusta.
Alors, oui, le Robusta pousse en pleine sous le soleil et a un système racinaire horizontal. Donc il ne va pas se nourrir du terroir. L'Arabica aime l'altitude. Il y a deux fois moins de fruits, donc c'est beaucoup plus compliqué et cher à produire, mais par contre, c'est le seul café, enfin la seule variété qui offre une belle complexité aromatique.
C'est le café, si on doit schématiser, c'est quoi ? C'est le café industriel, le Robusta et l'Arabica, c'est celui qu'on se réserve quand on veut un bon café ?
Si on veut schématiser, c'est ça.
Bon,
Parce que le métier de torréfacteur a vraiment énormément évolué ces dernières années. Hein, parce qu'avant, il recevait les grains, il les assemblait. Mais maintenant, on va dans les pays chercher son café, son grain. Après, on fait des mélanges. Enfin, ou alors, on met des pures origines. Mmh. C'est ça. C'est devenu vraiment très calé. Hein.
Mais c'est vrai qu'il y a un renouveau du métier de torréfacteur depuis une grosse dizaine d'années en France. Où effectivement, un torréfacteur aujourd'hui doit avoir une idée de l'origine. Il doit connaître l'origine. Il doit avoir une idée de ce qu'il veut faire comme profil de café. Bref, il doit connaître à la fois son torréfacteur, sa machine, parce que son métier à lui, c'est de cuire du café qui est cru. On reçoit des petits noyaux crus, en fait.
Vert, hein.
On appelle ça du café vert, ouais. Des cerises de café. Alors, ce qu'on consomme, c'est le noyau du café, c'est le noyau de la cerise, si vous préférez. Mais enfin, avant d'en arriver là, il y a un gros travail à l'origine, hein, énorme. Et plus on est sur des cafés de qualité, plus le travail est long et coûteux. Voilà, et donc moi, mon métier, c'est de cuire le café. On n'appréhende plus le métier, plus du tout, comme il y a 20 ans, 10 ans, ou comme mon grand-père, il y a 40 ans, où il n'y avait pas du tout une vision de ce qu'on voulait à terme dans la tasse.
Yves Candebordes, thé ou café ?
Café. Moi, je suis encore un ancien, parce que moi, je suis encore avec la cafetière Moka, la fameuse cafetière italienne. C'est celle qui, moi, je trouve, qui, pour moi, où je ressens le plus les arômes du café.
Ah, il est bon, il me fait ma transition pour tout à l'heure parce qu'on va parler justement des différentes façons d'extraire le café. Hein. Il y a les dosettes avec une marque célèbre qui ont pris un essor considérable et aujourd'hui elles font débat ces dosettes pour plein de raisons. Il y a la machine à café italienne, il y a les percolateurs presque qu'on peut trouver à la maison avec la machine broyeuse.
Piston.
Et puis le piston.
Moi, je suis très piston.
Ouais, vous êtes très piston. Ouais, petite fille de torréfacteur. Hein.
Oui, c'est ça, des cafés verlets.
Ouais, ne reniez pas vos origines, c'est très important.
Je les assume totalement.
Restez avec nous, on revient dans un instant, on va passer à la dégustation. Donc, c'est quoi un bon café ? On continue de répondre juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Café, tabac, qui veut goûter mon moka ? Café,
tabac, qui veut un cigare extra ?
Café,
tabac.
Ah voilà un autre joli duo, Annie Cordy et Bourville. Café, tabac, et ben voilà, c'est quoi un bon café ? Christophe Servel, fondateur de Terre de Café et meilleur torréfacteur de France, est avec nous pour répondre à cette question. On va faire une dégustation avec une belle cafetière au piston. On parlait des dosettes tout à l'heure, Christophe Servel. C'est vrai que ça a permis quand même, ces dosettes d'une grande marque, de découvrir une palette aromatique hein, pour certaines personnes qui ne connaissaient, enfin pour beaucoup de gens qui ne connaissaient que le petit noir au café, au zinc et au comptoir. Vous en pensez quoi, vous, de ces dosettes aujourd'hui ?
Alors aromatique, je suis pas trop. Je sais pas. Je me prononce pas là-dessus. Mais en tout cas, ça a permis.
Pour le commun des mortels, quand on n'a pas votre expérience, je parle. Hein, quand on
non,
a pas...
ça a permis d'avoir un café bien fait à la maison. Bon, c'est un autre chose, mais bien fait, parce que l'expresso, c'est compliqué à faire. Effectivement, au bistrot du coin, en général, le café n'est pas bon, mais en plus, il est mal fait. Donc ça dénature totalement ce qu'on peut avoir en tasse. Et le principe de la dosette Nespresso, c'est qu'on a toujours la bonne mouture, le bon poids de café dans la petite dosette et une machine qui est somme toute assez régulière. Donc on a quelque chose de bien fait. Mais ça ne veut pas dire bon.
Alors c'est quoi un bon café ? Là, vous avez une cafetière à piston qu'on peut tous acheter à la maison, hein, qui est transparente, en verre. C'est italien, ça ?
Non, la piston, c'est français.
C'est français,
c'est
la piston.
C'est une invention française, oui.
Alors comment ça marche ? Racontez-nous.
Bah, la piston, en fait, on met donc un poids de café. Nous, on recommande 7 à 8 grammes pour 10 centilitres.
Ouais.
Donc ça veut dire on multiplie par le nombre. Si on a une cafetière d'un demi-litre, on fait 8 fois 5, donc 40 grammes. Je ne me trompe pas ?
Non, c'est ça.
Ok. Et on met de l'eau pas trop chaude, 95 degrés, pas bouillante. Et on laisse infuser 4 à 5 minutes. Et on presse, et c'est prêt.
Alors, on presse pas tout de suite, on presse après avoir infusé.
On presse après avoir infusé, ouais.
Et alors là, on va servir. Qu'est-ce que vous nous avez fait comme café là?
Alors là, j'ai fait un... Les journées du café sont consacrées, enfin, mettre la Colombie à l'honneur. Donc, j'ai fait un café de Colombie. C'est un café chez nous qu'on appelle le Bourbon Project, puisque c'est un café où je vais sélectionner dans certaines fermes que des Bourbons, qui est une variété d'Arabica. Et j'ai pris un peu l'antithèse du café qu'on peut connaître, c'est-à-dire qu'on déjà on est sur une filtration, on va dire, même si c'est de la piston. Et surtout, c'est un café qui est très, très peu torréfié. Et donc, je pense que vous n'allez pas reconnaître le goût du café. Ça ne sera pas évident.
Alors, on va goûter, tiens. Petite distribution. Pourquoi vous avez choisi la cafetière à piston comme mode d'expression du café ?
Pour moi, c'est une bonne méthode. Ce n'est pas ma préférée, mais c'est une bonne méthode. Et surtout, c'est la méthode la plus simple pour faire un café. C'est-à-dire, on prend sa cafetière, on met son café, on met son eau, on attend 4 minutes et on presse. Alors 4, 5 minutes, ça dépend du goût des gens.
Ah oui, c'est effectivement étonnant. Ça n'a rien à voir avec le goût du café, on va dire, traditionnel auquel on peut s'attendre.
C'est très étonnant. C'est vrai que, voilà, les yeux fermés, honnêtement, je ne suis pas sûr de dire que c'est du café.
Il y a un côté infusion. On est...
Ouais, c'est ça. Infusion, on est entre le chicorée. On est entre le thé. Ouais. Ah non, la chicorée, non, j'espère pas.
Feuille de chicorée.
Non, ça, c'est très citronné. Enfin, on est... L'idée d'un café filtre, pour moi, c'est quelque chose. On est dans la dentelle, on est vraiment sur les acidités, le floral. Là, vous avez un côté floral, fleur blanche, si je ne me suis pas loupé en le faisant. Et puis, on est sur du citron, citron confit, il y a des notes de thé. Si on attend un petit peu l'évolution, il y a de la bergamote qui va arriver. Et on n'est pas du tout dans le petit noir qu'on peut connaître, un peu amer, un peu raide, etc.
Il est assez clair, même en extraction.
C'est très clair, mais par contre, c'est long en bouche. C'est-à-dire que vous l'avez en bouche, alors c'est léger, c'est frais. Mais ça persiste.
Oui, il y a plusieurs arômes. Combien ça coûte un paquet de café comme ça, par
exemple ?
Là,
on est sur des très beaux cafés très rares. Là, on est sur 14 euros le paquet.
D'accord.
Et on peut se faire vraiment très, très plaisir sur des cafés comme ça, subtils, autour de 9-10 euros.
Le premier prix quand on vient chez vous à Terre de Café, par exemple, pour
c'est
acheter
7 euros.
Et on fait combien de tasses avec 7 euros ?
On fait 35 tasses.
35 tasses, d'accord. Oui. Donc,
en
ce
expresso.
Que vous dites, c'est comme la viande, en fait. Et il vaut mieux peut-être en consommer moins souvent et en acheter de meilleure qualité pour aussi se familiariser avec des nouveaux goûts et des nouvelles saveurs.
Il faut consommer mieux et moins. Voilà. Et puis aussi, on sait que quand on a une recette de café, souvent les gens mettent trop de café quand ils font un café filtre. Et donc, c'est pas la peine avec des bons cafés, on en met moins en fait.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, je crois que c'est plus fort un café à piston au niveau de la caféine qu'un expresso, c'est ça ?
Oui, c'est plus fort. Il y a plus de caféine dans du fil, dans du piston que dans de l'expresso, puisque la caféine est soluble dans l'eau. Donc, plus longtemps dure l'extraction, plus on a de caféine. Un expresso, on l'extrait en 20-25 secondes, alors que là, j'ai attendu 4 minutes 30 avant de le servir. Donc, il y a 4 minutes 30 d'infusion. Donc pendant 4 minutes 30, la caféine s'est libérée dans le liquide.
Petite précision, tiens, pour nos auditeurs, vous leur conseillez quoi ? D'acheter du café en grains ou déjà moulu ?
Alors la règle de base, après on fait comme on veut évidemment, mais c'est d'acheter son café en grains et de le moudre avant de le faire.
Il y a plein de machines broyeuses maintenant qui coûtent cher, mais on l'a vu ici avec vous Yves, qui permettent de rentabiliser aussi sur une année des achats de dosettes par exemple.
Oui, c'est des machines qui vont moudre le café en direct quand vous passez votre commande entre guillemets à la machine. Et c'est vrai qu'au départ, la machine a toujours un petit coût d'achat, mais quand on calcule sur une année, selon le nombre de cafés qu'on consomme, on rentabilise très rapidement la machine et ça devient des cafés de qualité très accessibles en prix.
On peut aussi jouer du coude et acheter un moulin à l'ancienne.
Oui, j'en ai un moi encore, c'est ma grand-mère.
J'aime bien parce que ça sent bon.
On peut s'en servir toujours du moulin à l'ancienne, Christophe Servelle.
Oui, après ça moue un peu gros, donc c'est bien pour les cafetières pistons.
Eh ben voilà, on y revient. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Christophe Servelle, fondateur des boutiques Terre de Café, puis on les trouve, vos boutiques sur internet aussi, terredecafé.com. Vous aimez le café, chers auditeurs ? Eh bien, ce sont les journées mondiales du café de lundi prochain à samedi prochain. Et une pensée à tous les torréfacteurs qui nous écoutent, parce que c'est un beau métier en voie d'apparition. Et ça fait du bien de voir des torréfacteurs qui repeuplent nos cœurs de ville. Ne bougez pas, on continue à se faire plaisir à table ce samedi sur Europe 1. Après-midi, on va se faire de belles lasagnes de chèvre et de courgettes. C'est la saison. A tout de suite sur Europe 1. Il est bientôt midi, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Passionné de voyage depuis toujours, il quitte le lycée en devenant grand reporter pour CBS News. Sur France 5, on le retrouve avec sa chemise rouge aussi légendaire que son dispositif à double caméra. Avec J'irai dormir chez vous, il s'est invité dans plus de 60 pays. On le retrouve en ce moment au cinéma avec une fiction inspirée de ses aventures. habitué à dormir chez vous, il vient manger chez nous. C'est Antoine de Maximy. Bonjour Antoine de Maximy.
Ben bonjour.
On est ravis de vous retrouver à cette table. Vous
eh ben moi, je suis content aussi, voilà.
Vous devez avoir des trucs à nous raconter, hein, sur tous vos voyages, vos souvenirs de goût. Je pense qu'on va avoir de belles anecdotes, comme on dit. Alors, on vous connaît à la télévision, mais vous nous faites aussi voyager au cinéma, hein, je le disais. Votre deuxième film est en salle depuis la semaine dernière. J'irai mourir dans les Carpates. Je l'ai vu. Une belle enquête policière dans laquelle vous vous mettez en scène. Alors, c'est une fiction, mais ça part aussi de vos émissions où vous êtes dans les Carpates, comme ça, et il vous arrive un accident, vous disparaissez, c'est votre monteuse jouée par Alice Paul qui va faire l'enquête pour vous retrouver.
Exactement, et ce qui est amusant et intéressant, c'est que même le spectateur peut découvrir les choses parce que tout est dans les images et on le voit.
Exactement, parce que souvent, je vais vous dire, il y a des films policiers où l'enquête est mal ficelée, où le scénario n'est pas terrible. Là, le scénario, il est hyper pointu, l'enquête, elle marche hyper bien et c'est très interactif avec le spectateur. Donc, on vous souhaite un joli succès pour ce film. Et en plus, moi, ce que j'aime, c'est que ça nous rapproche de vous encore plus, parce que quand on vous voit sur France 5, on se dit toujours, pourvu qu'il lui arrive rien, c'est vrai, parce que vous allez comme ça dans des pays la fleur au fusil, quoi.
Bah, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce film, d'ailleurs, hein, au départ. C'est justement que je me retrouvais tellement régulièrement dans des situations un peu limites que je me posais la question, mais si un jour ça dérapait vraiment. Et ça, c'est ce qui m'a poussé à écrire le film. Et après, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est cette enquête dans les images. Parce que quand on voit une image pour la première fois, on est pris par ce qui s'y passe et on ne regarde pas. Mais il y a plein d'éléments qui peuvent être là et qu'on ne voit pas.
Alors Antoine de Maximy, vous êtes un voyageur, mais vous êtes gourmand aussi. Quel est votre goût de la semaine ?
Ah, mon goût de la semaine, alors ça c'est rigolo. J'ai une amie iranienne qui fêtait son anniversaire le week-end dernier, qui faisait un plat. Alors moi, à chaque fois, je dis « Ah, tu nous as fait de l'omelette au petit pois ». Mais ce n'est pas du tout ça. Ça s'appelle la salade olivier. C'est iranien. Ça vient, paraît-il, des Russes, mais ça se fait très souvent quand il y a une fête en Iran. Et c'est en réalité une sorte de salade avec des patates, de la mayonnaise, des cornichons et des petits pois, évidemment.
Ouais, ça ressemble un peu à une piémontaise avec les petits pois en plus, quoi.
Ouais, c'est un truc un peu bizarre, mais je ne sais pas. À chaque fois que je vais la voir pour un événement comme ça, il y en a.
Vous avez beaucoup la bougeotte, Antoine de Maximy. Quand vous vous retrouvez à la maison après tous vos voyages, vous aimez cuisiner ?
Alors moi, c'est un peu bizarre parce que je vis seul. Et je cuisine tout le temps, c'est-à-dire que je ne mange jamais un plat tout fait. Je me fais tout le temps, même si c'est des patates ou des pâtes, ça c'est pour les trucs simples. Mais il m'arrive de cuisiner juste pour moi. Et en général, je discute avec des copains, avec l'oreillette.
Yves Candebord, ici présent, va vous faire une recette que vous pourrez refaire tout seul à la maison avec peu d'ustensiles. Et il a choisi de mettre en avant un ustensile justement que vous avez dû voir beaucoup dans vos voyages.
Oui.
En Afrique, en Inde, on l'utilise, Yves, c'est le mortier avec son pilon.
Oui, c'est l'un des premiers ustensiles de cuisine qu'on connaisse. Voilà, c'est le mortier. Et c'est vrai, c'est un ustensile qui me plaît parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est toujours pressé. Et avec le mortier, il faut prendre son temps.
Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans le mortier ? Parce qu'on le sait, ça permet de faire le pesto, par exemple. On écrase avec ce pilon dans le mortier. Il y a plusieurs mortiers, d'ailleurs. Il y en a en bois, il y en a en marbre, il y en a en pierre.
Alors, moi, je préfère les mortiers en pierre parce que, justement, ils ont une masse et ils ont une belle assise. Étant donné qu'on va malaxer et qu'on va quand même forcer dessus, ça permet d'avoir une bonne tenue. Alors, ce qui me plaît, moi, dans ça, c'est que voilà, ça va me permettre de mettre des ingrédients, voilà, de les écraser, de leur permettre de libérer leur saveur, de libérer leur sucre et de se mélanger les uns aux autres en se respectant.
Les huiles essentielles des feuilles, par exemple, quand on fait un pesto, ne seront pas du tout exprimées de la même façon que si on les mixait, par exemple.
Alors, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on travaille les herbes, c'est d'avoir un mortier qui soit bien glacé, qui sorte du frigo. Ça va permettre aussi de conserver la couleur de l'herbe. Mais après, quelque chose de très simple, du basilic. Voilà, de passer un basilic au mortier. Le basilic va rejeter toute son eau de végétation, mais il va garder quand même sa structure.
Ça sent très bon, qu'est-ce que vous nous faites là
alors? Je vais d'abord vous faire déguster, j'en ai fait un avant d'arriver. Je vous ai fait quelque chose que tout le monde connaît, c'est le caviar d'aubergine. Alors vous allez le déguster, c'est le caviar d'aubergine au mortier.
Oh oui.
Et là, je suis en train de préparer une recette sucrée.
Oh, il est bon, votre caviar d'aubergine.
Ce qui est intéressant, Laurent, c'est qu'on a toutes les structures. C'est pas très joli. C'est pas très joli.
Je suis pas d'accord. Moi, j'aime bien reconnaître ce que je mange. J'aime bien quand il y a la matière.
Je suis bien content.
Je le préfère comme ça, un caviar d'aubergine mixé qui va virer sur un kaki clair. Là, il y a de la brillance en plus. Il y a des contrastes entre la peau et la chair.
Il y a de la brillance et surtout, il y a cette émulsion naturelle qui est faite par la rotation du pilon dans le mortier qui permet que les arômes de toutes les saveurs dedans, on a du cumin, on a de la coriandre, on a du poivre malabar, on a un peu de gingembre, une pointe d'olive et l'aubergine qui a juste été cuite au four.
Hyper bien assaisonné. Vous en pensez quoi, Antoine ?
C'est super bon. Ah, oui.
Et j'imagine que si on
moi,
veut...
je suis en train de tout manger. Hein.
Mais c'est fait pour ça. C'est fait pour ça.
Et là, Laurent, je vous fais... Voilà, c'est pour... je fais un dessert. J'ai mis des fruits, des fraises, des framboises, des figues. Au préalable, j'ai pris une écorce de citron que j'ai écrasée dans mon mortier. J'ai rajouté un trait d'huile d'olive, une pointe de coriandre, quelques baies roses, et on râler ça en 2 minutes. Et en plus, je trouve que c'est un geste qui est noble, c'est un geste qui est beau. En 2 minutes, j'ai une marmelade, voilà, on va appeler ça une marmelade de fruits de saison, qui est parfumée, voilà, qui a de la structure, et qu'on va déposer sur un yaourt, qu'on va déposer...
Ah, mais même comme ça.
Non, même comme ça.
Tout simplement, même sur la jardinière, une panna cotta.
Antoine ?
Mais je trouve ça super bon. Il y a un truc qui me plaît, c'est que dans la recette qu'on vient d'entendre, il y a le mot magique. C'est au préalable. Le piège du gars qui ne sait pas faire les recettes, tu sais, qui lit le truc, puis d'un coup, il arrive à au préalable, et là, il s'aperçoit qu'il n'a pas fait un truc.
Et puis, moi, non, je trouve que c'est vrai. Sensuel. Là.
Oui, puis il y a plein de structures. À une époque où on mange tout mou, là, on retrouve de la matière. Il y a du croustillant et du croquant qui est préservé. Donc, vive la cuisine au mortier.
J'ai entièrement d'accord avec l'idée qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans, qu'on retrouve les... C'est vraiment bien, ça.
Voilà, on aime retrouver ce qu'on mange.
Chose importante, Laurent, c'est accessible en prix. Ce n'est pas cher, le mortier.
On vous mettra les recettes sur europe1.fr. Ne bougez pas, les amis. On est là avec Antoine de Maximi jusqu'à 12h30. Bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire. On revient juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle. A tout de suite.
Moi, je vais prendre le plat du jour.
On envoie la bohémienne pour la 14. Bien chaude. On y va.
Allez, on envoie la tarte au citron à la 5, les gars, s'il vous plaît.
Europe 1.
Moi, je vais prendre la brioche perdue.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Du marché à la cuisine, nous sommes là depuis 11h. Alors de l'origine à la dégustation, nous avons fait le tour de la tasse de café il y a quelques minutes. On vous a raconté de belles recettes de salade. Et puis nous revoilà avec le réalisateur baroudeur Antoine de Maximi. Tout se passe bien, Antoine ?
Ah ben c'est nickel, je pensais pas que j'allais me régaler comme ça.
Hein. Ah ben tant mieux, ça nous fait plaisir. Antoine de Maximi, acteur, réalisateur à l'affiche au cinéma en ce moment dans J'irai mourir dans les Carpates. Une belle comédie policière, on peut la définir comme ça.
Oui,
voyageuse en plus.
Allociné, ils ont mis comédie virgule thriller.
Oui, c'est vrai. Ah, mais il y a un côté thriller qui est hyper bien vu avec Alice Paul et Max Boublil. Et puis vous dans votre propre rôle en fait. Hein.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Depuis 2004, vous vous êtes invité à dormir chez les gens sur France 5, Antoine de Maximi. 60 pays. Hein. Vous avez dû faire de belles découvertes culinaires. Quels sont les grands moments comme ça qui vous ont marqué ?
Oh, des grands moments. Bah, déjà, il y a le café. Là. Je vois ce café là, que je viens de goûter et qui me rappelle celui que j'avais bu en Éthiopie. Sur les hauts plateaux, vraiment dans des coins reculés. Et quand ils t'invitent à boire le café, ça dure une bonne heure. Hein, parce qu'ils sortent les grains, ils les font griller, ils les écrasent et après ils font le café. Et il est pareil que celui-là, c'est-à-dire très transparent.
Très infusé, hein, c'est ce que nous disait Christophe Cervelle de Terre de Café.
Et avec un goût assez déroutant, qui n'est pas habituel. Quoi, voilà. Mais sinon, si vous voulez savoir ce que j'ai mangé de pire...
Ouais, ah oui, je veux bien.
Parce que je sais que ça plaît, ça. Et ben, c'est dans un pays complètement civilisé. C'est en Islande. Ils ont un truc qui s'appelle, j'arrive pas à le prononcer, le Akarl, un truc comme ça. C'est du requin fermenté, pourri. Enfin, oh. C'est très bizarre. Ça a une odeur d'ammoniac. Vous imaginez ce que c'est l'ammoniac, hein ?
C'est
très,
oui.
Très fort.
Ça débouche le nez, ça. Hein ?
Ça débouche le nez, ça fait peur. Hein, parce que, comment dire, à cette heure-ci, bon, c'est un petit peu comme si on avait oublié un seau d'urine pendant quelques jours, quand
c'est
même.
Ça,
hein.
Oui, c'est ça. Non, mais
hein,
c'est ça,
l'ammoniac.
C'est ça.
Et ben, quand ils t'amènent ça sur la table dans un bon restaurant, ben, t'es dérouté.
Et alors, vous avez fait quoi ? Vous l'avez mangé ?
Ben oui, j'ai mangé. Bien sûr que j'ai mangé. Alors, j'ai goûté. C'est au goût, ça va. Mais c'est cette odeur qui tue. Mais en même temps, bon, pour nous, ce n'est pas notre culture, donc c'est abominable. Mais quand tu sors un maroilles et que tu donnes ça à un Japonais, est-ce que tu t'imagines comment il voit le truc ?
C'est
parce
pareil.
Que c'est jamais que du lait pourri, hein, quand même,
poisses,
un maroilles.
Ou de poisses, ou un master.
Voilà, c'est un truc qu'on a laissé pourrir jusqu'à ce qu'il sente vraiment très mauvais.
Ah oui, la définition du goût, elle change en fonction des cultures.
Eh bien, c'est des histoires de culture, tout à fait.
En bon routard que vous êtes, vous avez dû aussi connaître et goûter à la street food, cette cuisine de rue dans les pays. Je pense à l'Asie, surtout, elle est très présente.
Ah ben, en Thaïlande, c'est très bon. Ah, c'est très bon dans les rues, pour vraiment pas grand-chose, on mange très bien.
Alors depuis 15 ans en France, on peut dire que la cuisine de rue est présente grâce au food truck aussi, entre autres. Hein. Et ben pour le plat du jour, Antoine de Maximi, on vous emmène goûter la cuisine de Daphné, qui est installée avec son camion dans le Midi. Frédéric Michel, qui est notre correspondant dans la région, l'a rencontré dans son food truck. Il était installé ce jour-là, le food truck, à Cantaron, à la sortie de Nice. Au menu, écoutez, chers auditeurs, de belles lasagnes de courgettes aux chèvres, cuisinées par Daphné. Alors écoutez, parce qu'il faut être bien organisé quand on cuisine dans un camion.
On va prendre une dizaine de courgettes, les laver, les découper en tronçons. On va couper un oignon blanc, faire revenir tout ça dans une casserole avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre. On couvre. On mélange avec un mixeur du chèvre frais. Ça va nous faire une crème de courgettes. Et donc on va se servir de cette crème pour monter les lasagnes. Plus c'est humide et mieux c'est. On peut même, si vous voulez, le faire la veille, puisque si c'est froid, ça vous laisse le temps de monter vos lasagnes sans que les pâtes ne commencent à cuire. Donc en fait, on va monter sous forme de couche. Au fond du plat, on met un filet de crème, pâte, crème de courgette, pignon, chèvre en bûche émietté. Moi, je fais 5-6 étages. À la découpe, ça fait vraiment une espèce de millefeuille, c'est très sympa.
Il faut être bien organisé.
Ah, dans un camion, oui, c'est essentiel parce qu'on a des fours limités, de la place limitée. Le fait que les gens me voient cuisiner, c'est ce qui fait aussi le charme du camion. À la fin, sur la dernière couche de pâte à lasagne, je mélange gruyère et parmesan. Et donc, on va enfourner à 200 degrés, 20-25 minutes maximum. Donc, on regarde bien la couleur du fromage sur le dessus. On n'hésite pas de temps en temps à ouvrir le four pour enlever un peu l'humidité. On rajoute un peu de salade verte et on est au cœur de la Méditerranée.
Ah bah bravo Daphné et merci Frédéric Michel. Elle donne envie, hein, ces belles lasagnes de chèvre aux courgettes. Vous pourrez les refaire en rentrant, celle-ci, Antoine de Maximy.
Hein. Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas donner l'adresse parce qu'un camion, ça bouge.
C'est ça, exactement, il bouge. C'est d'ailleurs le premier food truck à être reconnu comme restaurant de qualité par le Collège culinaire de France qui récompense de belles tables, qui travaille avec de beaux producteurs locaux, entre autres. Donc, vous voyez, on peut bien manger aussi dans les camions, c'est important de le dire. Qu'est-ce qu'on boit avec ces belles lasagnes de courgettes aux chèvres, Yves Candebordes?
Oh, on va rester dans la région au-dessus de Nice. Là, il y a un vignoble, le vignoble de Bélé, qui est magnifique, un joli Bélé blanc de la famille Massac, qui sont une jolie famille qui fait un vin nature très agréable. Ça peut marcher avec sans aucun problème.
Oui, je le vois
on
bien,
reste
moi.
Très locavore et c'est très bien.
Restons local. Vous aimez le vin? Vous y connaissez en vin, Antoine de Maximy?
Alors, moi, je m'y connais, oui et non. C'est-à-dire que j'arrive vraiment à trouver quand un vin est bon. Mais par contre, de dire d'où il vient. Mais en revanche, moi, je me suis amusé à faire un truc pendant une fête une fois. J'ai acheté le moins cher des cubis de vin, 10 euros pour 3 litres. Et j'ai acheté 4. C'était quoi? Château Olivier, Grand Cru classé de Graves de 2004, et j'ai permuté les deux. Ça, c'est du boulot.
Ah oui, et mais après... ils se sont rendus compte quand même,
mais
j'imagine.
Mais non, il y a plein de gens. Moi, j'ai une copine qui m'a poursuivi toute la soirée pour savoir où j'avais acheté le cubi. Elle avait du palais. Mais il y a plein de gens à qui j'ai fait goûter mon cubi en disant « Goûte, il est vraiment bon ». Et quand j'arrivais après avec la bouteille de Grand Cru classé dans lequel il y avait 2,50 € de vin, et ben, il disait « Ah, ouais, ça n'a rien à voir ».
Alors, pour
je
vos
te
copains,
confirme.
Pour vos copains et vos copines qui ne s'y connaissent pas bien en vin, regardez, il y a ça qui vient de sortir, c'est le guide des vins pour les nuls. C'est Paris Match hors série qui sort ce numéro, c'est très bien fait.
Et ben, du coup, je sais à qui je vais l'offrir.
Cépages, ça parle justement des différentes appellations, donc je vous l'offre et vous pourrez l'offrir à votre tour. Antoine de Maximy est avec nous jusqu'à midi et demi, hein, ne bougez pas. On revient dans un instant et Charlotte Langrand va nous emmener en Loire-Atlantique à la découverte d'un chef qui en a sous le pied. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Antoine de Maximy, le baroudeur, voyageur, réalisateur, est avec nous. Vous pouvez le voir au cinéma en ce moment avec son film « J'irai mourir dans les Carpates », une belle comédie policière. Donc vous disparaissez, hein, vous jouez votre propre rôle dans ce film et vous disparaissez. Votre monteuse jouée par Alice Paul va mener l'enquête et... On ne peut pas raconter la suite, mais bon, il va y avoir des rebondissements et des aventures.
Ah, mais jusqu'à la fin.
Non, mais c'est vrai qu'il vous arrive des choses étonnantes quand même dans les Carpates avec des types patibulaires, mais presque, hein, comme disait Coluche.
Tout à fait.
C'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu peur pendant vos voyages de grandes frayeurs comme dans le film, par exemple?
Bien sûr que j'en ai eu quand tu te retrouves au milieu d'une fusillade. Alors, ce n'est pas sur moi qu'on tirait. Mais quand même, c'est juste derrière, tu ne sais pas trop ce qui va se passer.
Ouais, c'est pas banal.
Voilà, ça c'est un type de peur. Puis il y a l'autre type de peur qui est plus calme, mais qui est aussi profond, parce que ça c'est terminé en 2 minutes, une fusillade. Mais, bah oui, donc tu sais que tu n'es pas mort, ça va.
Ouais.
Alors que quand tu te retrouves, comme ça m'est arrivé en Bolivie, avec des gens qui me recherchaient parce que une amie à eux qui avait voulu me faire monter dans un taxi, pour on ne sait pas trop quoi, mais probablement me dévaliser dans le meilleur des cas, quand tu as des gens comme ça qui te cherchent après, bah là, tu es inquiet. Et j'avais quitté le pays assez rapidement, mais tu as le temps d'avoir peur. Donc tout ça, c'est des peurs différentes, mais ça m'est donc arrivé régulièrement d'avoir peur.
Alors moins dangereux...
Faut pas que ça se voit.
Mais comment ? Moins dangereux, revenons à nos casseroles, Antoine de Maximy. En cuisine, il paraît que vous aimez faire des repas colorés, comme votre chemise.
Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. J'ai fait ça pas mal de fois, surtout quand ma fille était petite. On faisait des repas avec plein de colorants alimentaires. Alors, on pouvait faire cuire du riz dans des bains verts. Je mettais tellement de colorants que le jus était noir. Hein. Mais après, ça fait un beau vert. Et je sais qu'il y avait un truc qui était très sympa, c'est le dessert. Parce que le dessert, je distribuais des fromages blancs. Les gens le sucraient, le mettaient dans une assiette plate. Et puis ensuite, je distribuais les pinceaux et les colorants et chacun faisait un dessin. Et après, on mangeait notre dessin. Et ça, c'est des trucs, mais c'est très marrant. Alors, il ne faut pas le faire trop souvent, mais bon, avec tous les scandales qu'il y avait eu sur les colorants il y a 30 ans, ceux qui sont restés, à mon avis, sont quand même assez inoffensifs.
Alors, avec votre émission, Antoine, vous avez cassé les codes de la réalisation et du genre des magazines de voyage, on peut dire ça. Eh bien, en cuisine aussi, il y a des chefs qui cassent les codes. Eh bien, ces chefs, ils intéressent Charlotte Langrand, en général. Et c'est le cas d'Éric Guérin. Présentez-nous ce chef audacieux,
oui,
Charlotte.
Oui, je vous emmène au milieu des marais et des roseaux sur les traces d'un changement de vie plutôt réussi. C'est celui de chef de la mare aux oiseaux sur l'île de Fredin, en Loire-Atlantique. Il s'appelle Éric Guérin, il fête cette année ses 50 ans à lui et les 25 ans de sa maison. Et c'est assez rare de voir un chef changer aussi radicalement de façon de pratiquer son métier entre ses débuts et maintenant. Alors il a commencé classiquement dans des cuisines parisiennes prestigieuses, la Tour d'Argent, le Taïwan, le Jules Verne à la Tour Eiffel.
Les belles adresses.
Oui, il a appris, comme on dit, l'excellence à la française, comme on dit, mais aussi la dureté psychique et physique des brigades, hein, les hurlements des chefs, les heures qu'on ne compte plus, aussi la concurrence féroce entre les cuisiniers. Hein, on n'hésite pas parfois, hélas, à ébouillanter les pieds de son prétendu rival. Bref, à 25 ans, comme il dit lui-même, il était sec, cuit, épuisé.
Comment il a tenu et comment il s'est reconstruit?
Et bah simplement, justement, en se ressourçant en pleine nature dans ses marais où il chassait avec son père. Et du coup, quand il a appris que l'auberge du parc voisine était à vendre, il a démissionné, il a quitté Paris et puis il s'est installé à son compte en Brière. Alors, hélas, évidemment, au départ, il a reproduit un petit peu mécaniquement ce qu'il avait lui-même connu en cuisine, avant d'en avoir un peu honte et de petit à petit changer les choses en cuisine et en salle. Alors, il donne 2 jours de congé par semaine à ses équipes pour souffler. Il donne une mission à chacun. Il soigne le micro-sourcing des produits pour dégager plus de marge, donc rémunérer mieux ses équipes. En fait, il a plutôt compris qu'on avait changé de génération en cuisine, que ce rythme et ce management bienveillant, ça correspondait mieux aux attentes des jeunes d'aujourd'hui, et puis que ça, lui, tout simplement, ça le rendait plus heureux aussi. Du coup, il y a certains employés qui sont là depuis ses débuts, depuis 25 ans, ils font des barbecues ensemble, des couples se sont formés, c'est une équipe assez soudée, à tel point, Laurent, que la mare aux oiseaux, c'est aussi devenu un refuge pour les jeunes oisillons, on va dire, maltraités, comme ça, par le métier. Leurs parents contactent même le chef Éric Guérin sur les réseaux pour qu'il les accueille et puis qu'il leur montre qu'un autre modèle existe en cuisine.
C'est vrai que cette nouvelle génération de chefs cuisiniers veut casser, effectivement, comme vous, Yves Candebord, l'apprentissage un petit peu à l'ancienne et à la dure qui a été pratiqué dans les cuisines, quand même. Hein.
Oui, complètement. Avec Éric, on se connaît très bien et on a croisé, je dirais, les casseroles ensemble dans ces grandes maisons. Donc je sais de quoi il parle. Voilà, c'était un temps qui était comme ça, où il y avait un management qui était plus dans l'humiliation que dans la mise en valeur de l'être humain. Mais aujourd'hui, à 99%, la cuisine est en train de vraiment évoluer. Et on travaille dans des conditions totalement normales, dans la joie et la bonne humeur.
Et aujourd'hui, Éric Guérin transmet beaucoup à ses chefs, comme avec David Gallienne, par exemple, qui est le gagnant de Top Chef l'année dernière, à qui il a vendu son jardin des plumes à Giverny, qui est une très belle table.
Exactement, il s'occupe beaucoup de ses chefs et de leur parcours ensuite. Et puis du coup, tout ce beau monde qui travaille avec Éric Guérin soigne aussi son assiette à lui. Le chef Éric Guérin, c'est un chasseur, un cueilleur, un voyageur. Il est aussi maintenant ancré dans sa région. Alors on y mange de l'anguille fumée, du pigeon, des grenouilles à la verveine ou une très délicate fleur de courgette farcie à la silure. Hein, ce poisson d'eau douce assez mal aimé.
Oui, on l'aime pas trop.
Tout départ. Comme les écrevisses aussi. Donc en octobre, vous pourrez retrouver toute cette philosophie dans son livre intitulé « Chemin croisé ». Et puis, il fête cette année aussi ses 20 ans. Les 20 ans de son étoile, preuve qu'on peut briller dans la gastronomie, même avec des cuisines apaisées.
Eh bien, merci Charlotte Langrand. La mare aux oiseaux à Saint-Joachim, en Loire-Atlantique, près de Guérande, avec la belle fleur de sel. Un chef qui vous aurait tapé dans l'œil aussi, tiens, Antoine de Maximy, à nous conseiller.
Alors moi, il y a un restaurant, parmi tous ceux que j'ai vus, pendant le tournage de mon long métrage, en Roumanie, dans une petite ville, le nom vient Fagarach, un truc comme
ça. Ça va être simple pour le retrouver. En Roumanie,
non, mais excellent, c'est un des meilleurs restaurants dans lesquels je suis allé et on avait mangé pour 20 euros, 20 compris.
Et ben voilà,
excellent.
Comme ça, on va chercher, c'est très bien. On revient avec Antoine de Maximy et ses coups de fourchette dans un instant sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie à la table des bons vivants avec notre invité qui nous raconte ses jolis souvenirs de voyage. C'est Antoine de Maximy qui est au cinéma en ce moment avec J'irai mourir dans les Carpates. Alors vous commencez le film dans une ville des Carpates. C'est quoi les Carpates? Ça se situe où? Tiens, dites-nous.
Ouh,
un petit
les
peu.
Carpates, c'est une longue chaîne de montagnes qui commence en Roumanie au sud et qui monte jusqu'à la Pologne.
Vous le commencez où le film en
fait? À Brașov. Brașov, très jolie ville de Roumanie.
Alors on va vous retrouver sur un marché dans cette très jolie ville de Roumanie. Vous faites connaissance avec quelqu'un dans votre film.
Vous allez manger quoi, Bibi?
Ça.
Ah, des choux.
Pourquoi vous me demandez ça?
Et parce que vous allez m'inviter à déjeuner.
Ah bon? Faut que je demande à mon mari.
Bah appelez-le.
Bien, je suis bizarre, ok. Bien, ben, prends un dépôt. Papa.
Il a dit oui?
Oui, il est d'accord, mais pour ce soir. Ok.
Eh ben ce soir alors. Ok, ben voilà, c'est pas compliqué la vie.
Eh ben voilà, ça c'est le début du film. Et ça c'est dans le film, mais ça se passe comme ça souvent sur vos tournages.
Ah
justement.
Oui, on trouve bien l'esprit. De toute façon, tous ceux qui aiment la série retrouvent tout ce qu'ils aiment dans la série, dans le film.
Et le marché, la cuisine, c'est vrai que c'est un bon sujet pour engager la conversation dans un pays étranger aussi. Hein.
Oui, il y a ça, il y a les animaux aussi domestiques. Le chien, quand quelqu'un promène son chien, ça fait partie des ponts. Il y a plein de choses comme ça.
Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon quand même de découvrir la cuisine d'un pays que d'aller s'inviter à manger chez eux aussi plutôt que d'aller au resto?
J'ai fait une fois, c'était en Mongolie, une fois j'ai fait un truc rigolo, c'est-à-dire les gens voulaient qu'on aille au restaurant. Je leur ai dit non, on va faire un truc plus rigolo. Je vous invite à dîner chez vous. Et je leur ai fait des pommes sarladaises et du bœuf. Et ils étaient complètement déroutés parce que je l'ai fait comme on le fait chez nous, c'est-à-dire saignant.
Ah bah oui.
Et eux, ils regardaient, mais c'est pas cuit. Ils se disent, ah bah c'est comme ça qu'on le mange en France.
Et ils l'ont mangé?
Oui, ils l'ont mangé et je les ai eu plus tard. Ils n'ont pas été malades.
Ils ont été polis.
Oui, ils ont été polis, mais on dit toujours, il faut être poli, il faut accepter ce qu'on te donne à manger. Bah c'était à l'inverse.
Bah comme Antoine, quand il a goûté ce requin fermenté en Islande, hein, c'est ça?
En Islande, absolument.
Allez, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire des bons vivants, Antoine de Maximy.
J'espère que je vais être bon.
Oh oui, je suis pas inquiet.
À point,
voilà, sur un point. Quel est le goût de votre enfance?
Alors c'est marrant parce que quand j'étais petit, le truc important, c'est le petit déjeuner. Et c'était du banania. Et bizarrement, c'est l'ovomaltine qui sort. Parce que l'ovomaltine, c'est quand même un goût qui est assez particulier.
Je suis désolé, c'est quoi?
C'était une barre avec des céréales.
Vous non, pas c'était même de la poudre que tu mettais dans le lait.
Au début, une poudre et une barre.
Mais ça n'existe plus.
J'ai 8 secondes pour vous dire que l'ovomaltine, c'est de la dynamite.
Ah pas, oui.
Exactement. Ah non, je connaissais pas.
C'est très malté. C'est une céréale qui a été torréfiée, maltée. Ça doit exister encore, si.
Hein,
on en trouve encore, mais il y a moins de consommateurs.
Tiens, essaye de faire un truc avec ça pour. Non, parce qu'il est original.
Prochain défi.
Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des minéraux et pour les sportifs, effectivement, c'était assez apprécié. Le premier plat que vous avez cuisiné, Antoine de Maximy?
Oh, alors là, comme mes parents, moi, c'était deux peintres et qu'ils n'avaient jamais de sous, on a mangé essentiellement, vraiment, des patates et des pâtes. Et je pense que c'était ou des patates ou des pâtes. Heureusement qu'il y avait la cantine. Moi, je faisais partie des rares enfants qui étaient contents d'aller à la cantine, manger de la langue de veau, de la cervelle d'agneau. Parce que ça changeait.
Mais vous avez raison, la cantine, c'est son premier rôle, c'est la sécurité alimentaire des enfants.
Ah,
et nourrir
hein,
des enfants qui ne peuvent pas manger varié et équilibré à la maison.
Découvrir du goût.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Je crois que c'est en Iran, parce que quand je suis allé en Iran, j'avais rien préparé comme d'habitude. J'ai débarqué là-bas et en fait, c'était le Ramadan. Et ça a quand même compliqué un peu les choses pour rencontrer les gens, etc. Je ne me suis peut-être pas super débrouillé, mais j'ai quand même mangé beaucoup de biscuits dans ma chambre et de trucs comme ça. Et le dernier soir, il y a un Iranien qui m'avait accueilli chez lui et qui faisait un plat pour lui et son cousin. Donc, on s'est retrouvés à trois sur ce plat qu'il avait très bien fait. Je ne sais plus ce que c'était. Mais qu'est-ce que c'était bon! En contraste avec ce que j'avais mangé pendant 15 jours, c'était un régal.
Antoine de Maximy, quel est votre plus grand succès en cuisine?
Oh, alors ça, je crois que c'est peut-être pas très dur à faire, c'est un soufflet.
Ouais, pas dur à
souffler au fromage.
Ah, c'est technique quand même.
C'est technique.
Mais il faut respecter les règles, ça marche.
J'ai respecté les règles. Et c'est vrai que c'était pour récupérer une copine. J'ai réussi le soufflet.
Ah.
Et la récupération.
Ah, vous n'êtes pas
dégonflé.
Il y avait une
belle motivation alors.
Ouais. C'était quand même qui tout double. Hein, parce que si tu le ratais, c'était mort. Hein.
Quel plat vous emmèneriez sur une île déserte?
Alors moi, sur une île déserte, l'idée, c'est quand même que tu vas y rester longtemps. Et je me dis qu'il faut manger un truc que tu peux manger tous les jours sans te lasser. Donc je pense à du riz ou des pâtes. Parce que...
Retour à l'enfance.
Mais oui, parce que si tu manges ça tout le temps, ça va être moins...
Vous auriez pu penser au requin fermenté, parce que je pense que ça se conserve, le requin fermenté.
Mais il n'en veut plus.
Ah bon. Je ne sais pas si on s'y habitue.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Antoine de Maximy ?
Ouh, alors en général, c'est les copains. C'est jamais les mêmes, j'en ai beaucoup, j'aime bien que ça change, etc. Et comme disait, je ne sais plus qui, mais j'aime bien le reprendre, il vaut mieux manger des pâtes avec des potes que du caviar avec des tocards. Voilà.
Ah bah ça c'est sûr, oui, on en est bien d'accord. Et pour finir, Antoine de Maximy, le mot de la fin, F-A-I-M.
Alors moi, la fin, justement, c'est un truc que je gère, parce que quand tu vas au restaurant, il n'y a rien à faire, tu manges trop. Donc j'ai une technique que je donne à tout le monde, j'ai un Tupperware super étanche. Je peux même mettre de la soupe dedans. Et quand j'arrive au resto et que j'ai mon plat, j'en mets direct la moitié dedans. Je ferme, je mange l'autre moitié, j'ai largement assez mangé, je rentre à la maison, je mets ça au congélateur, et ben résultat, tu manges moins.
Et ben mais non, mais c'est une très bonne idée.
Et
en
une
plus.
Fois, j'étais à barbecue.
Et zéro gaspille.
Zéro gaspille. Et en plus, une fois, j'étais à barbecue, et les mecs qui me disaient, mais reprends-en, t'es pas gros. Mais non, ils ont pris le problème à l'envers. Je suis pas gros parce que je mange pas trop.
Mais je suis d'accord. Et là où il y a de la gêne, il y a pas de plaisir. Et vous avez bien raison. Voilà. Et c'est votre côté voyageur parce qu'en France, on a un problème avec le doggy bag. On n'ose pas prendre des portions dans les assiettes. Et dans plein de pays, ça se fait.
Et puis là, comme plus, comme t'as ta boîte, tu demandes rien à personne. Et donc, t'es pas gêné de demander.
Merci Antoine de Maximy
d'être
venu à la table des bons vivants. C'était un plaisir et on va vous voir au cinéma en ce moment dans J'irai mourir dans les Carpates, une belle comédie policière.
Allez-y en famille.
Et voyageuse. Et allez-y en famille, absolument. C'est un film à voir en famille. Merci à toute ma bande de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucille Escourou à la rédaction en chef, Julien Amat à la rédaction, Jean-Luc Arblad à la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation. Merci Marion Sauveur, Charlotte Langrand.
Merci.
Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à réécouter le podcast. Il est sur europe1.fr. Continuez. Et puis la newsletter est là aussi pour vous sur europe1.fr pour retrouver toutes nos recettes. Voilà, les fourchettes tombent.
Je suis invité à déjeuner, mais j'ai plus faim.
Bon week-end sur Europe 1. La semaine prochaine, on recevra Christophe Michalak, le grand pâtissier. Et pour l'instant, vous avez rendez-vous avec Fabienne Lemoyle dans Europe Midi. Bon week-end.